بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir quelques instants pour étudier la vie, la biographie, le modèle prophétique An-Nabi alayhi salat wa salam as-sira an-nabawiyya. On avait commencé une introduction la semaine dernière en expliquant la motivation du croyant lorsqu'il étudie la sira, la vie du prophète alayhi salat wa salam, et quels sont les objectifs que nous devons nous fixer. Mais avant même de se fixer des objectifs, qu'est-ce que nous recherchons plutôt? Qu'est-ce que nous recherchons à travers l'étude de la sira? Et on avait bien expliqué un point, on avait dit que étudier la vie du prophète alayhi salat wa salam, ce n'est pas comme étudier la vie d'une personne ordinaire, que ce soit un politicien, un philosophe ou quelqu'un qui a fait des choses exceptionnelles, scientifique ou autre chose. Lorsqu'on étudie la biographie de certaines personnalités, le but c'est de savoir ce que la personne a fait de sa vie. Mais lorsqu'on étudie la sira, c'est ce qu'on avait rappelé la dernière fois, c'était l'objectif de l'intervention, le but c'est de nous imprégner du vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa façon d'agir dans toutes les situations de la vie et façon d'agir qui était le comportement qu'Allah Rabbul Izzah attend de l'être humain. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Nous avons à travers notre prophète alayhi salat wa salam le modèle. On allait continuer aujourd'hui avec la même introduction qu'on a trouvée sur internet d'un grand cheikh. Et subhanallah, en lisant le nectar cacheté, le Rahiq Makhtoum, cette édition, d'accord, particulièrement qui est meilleure que l'ancienne, on s'est rendu compte que la préface de Cheikh Mubarak Fawri est exceptionnelle. C'est vraiment bien. Donc plutôt que d'aller piocher à droite et à gauche différentes approches des grands mu'arrikhin, comme on a dit, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a plusieurs niveaux de livres de sirat. Là, on est dans le niveau intermédiaire. Rahiq al-Makhtoum, c'est le niveau intermédiaire. Après, quand on pousse beaucoup plus loin, c'est Ibn Hisham, les tabaqat, c'est beaucoup plus précis, avec les divergences, les différentes narrations, trop techniques peut-être. Donc c'est ce qui nous convient. Et l'introduction de ce savant, un savant indien, mashallah. Et je rappelle juste le contexte. À l'époque, c'était en Arabie Saoudite, subhanallah, le roi avait fait un concours, celui qui écrit la meilleure biographie du prophète alayhi salat wa salam. Donc il y a eu des savants du monde entier qui ont essayé, qui ont présenté leur travail, leurs ouvrages. Et Cheikh Mubarak Fawri a été primé. Donc c'est vraiment quand on parcourt son livre de sirat, ce qui nous frappe, c'est la simplicité, le terme n'est pas, on ressent pas que le mot vulgaire, le fait qu'il ait vulgarisé la sirat, c'est-à-dire qu'il le rend accessible à tout le monde. Ça ne veut pas dire c'est vulgaire, comprenez bien. Il vulgarise quelque chose qui est normalement un peu technique et vraiment, et c'est ce qui me plaît dans Mubarak Fawri, c'est ce qui me plaît dans Tafsir al-Sa'di, c'est qu'il vous donne la connaissance et c'est accessible vraiment, sans que vous ayez fait des années de prépa ou des années de alim. C'est vraiment la connaissance qui est accessible à tout le monde et qui promet à chacun, et qui je dis promettre, c'est un lapsus, qui permet à chacun de progresser dans sa religion. Parce que nous n'aurons pas tout le temps à côté de nous un savant, un alim, si on l'a, mashallah, à qui on va poser des questions, quelqu'un qui va donner des conseils tous les jours, ainsi de suite. Parce que vous savez, même, je vous le dis, en toute honnêteté, en toute clarté, même vous avez un référent, un alim, plus vous connaissez les gens, et on risque parfois de se dire que des fois, lui, il prêche quelque chose, et dans sa façon d'agir, c'est pas pareil. Et des fois, on peut être déçu, ce qui est normal, parce que nous ne sommes que des êtres humains. Et la perfection, c'était pour le prophète, alayhi salat. On appelle ça al-isma. Allah l'a protégé. Depuis son enfance, où il n'a jamais fait quelque chose de mal, même quand il était ma'soum, comme on dit, innocent, ghayr mukallaf, pas de, entre guillemets, de bêtises comme les jeunes et ainsi de suite. Allah l'a protégé depuis, subhanallah, sa naissance. Jamais quelqu'un n'a pu dire quoi que ce soit à propos du prophète alayhi salat wa salam. Et donc, même si on côtoie un savant, on finira toujours par trouver quelque chose qui nous déçoit chez lui. Donc, en même temps, on côtoie les ulama, on prend leurs conseils, mais on doit être conscient que ce ne sont pas des surhommes non plus. Vie de famille, des manquements, des qualités, des défauts, comme tout être humain. Et chacun essaie d'avancer, chacun essaie de se parfaire, chacun essaie de combler ses manquements. C'est le plus important. Et Allah est Ghafour Rahim. L'avantage de l'ouvrage, du livre, le fait de se documenter, vous pouvez le faire quand vous voulez, à n'importe quel instant, à votre rythme, à condition d'avoir entre vos mains l'ouvrage qui est adapté. Et justement, parmi tous les livres de Sirat, le Nectar Cacheté a l'autre avantage également que c'est une très bonne traduction. Il y a des traductions à une certaine époque, c'était catastrophique. C'est une excellente traduction et c'est vraiment un livre, voilà. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, pour ceux qui vont être réguliers, Inch'Allah, dans le programme, c'est d'acheter ce livre, idéalement, cette édition, et de l'emmener pendant le cours, parce qu'on va se baser là-dessus et sur aucun autre livre. Donc on va parcourir, on va pas faire une lecture, c'est pas un ta'alim, genre on lit. Non, c'est voilà, par thématique et avec quelques petites explications. Bifadlillahi azza wa jalla. Alors, si quelqu'un avait le livre, enfin je vous avais montré, bon, dans un autre monde, on aurait eu une vidéo projection avec un système d'enseignement qui est plus... Hein? Merci. Ah non, on ne peut pas parler d'autres villes. On est à Saint-Denis, c'est la capitale. Hein? Merci. On va se calmer, s'il vous plaît. Donc, la préface, le Cheikh Irkiri, la Sira, une expérience, non, une science. Vous voyez, il y a plein de lapsus qui sortent. Hein? J'ai dit une expérience de vie, une science à part entière. Une science à part entière. Et il commence par qu'est-ce que la Sira? Alors, la Sira, vous savez, il faut toujours aller vers l'étymologie. Vous savez, les dictionnaires, machallah, en langue arabe, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il y a une analyse de la racine de chaque mot. C'est magnifique. Et on a, l'ouvrage le plus connu, ça s'appelle Lisan al-Arab, en une dizaine de volumes, hein, c'est une encyclopédie, hein, c'est plus un dictionnaire. Quand on regarde le Madda Sira, on trouve trois sens. Il y a, je vous rapporte que Moubarak, c'est pas moi qui ai fait la recherche, hein, c'est le cher qui a trouvé. Et nous, on a un plat surgelé qu'on passe au micro-ondes et qu'on essaie de consommer ensemble en espérant qu'il y a la baraka. Naam. Il dit qu'il y a trois ma'na, trois sens. On a le mot sira qui veut dire sunna. Sira égale tradition, tradition prophétique. On a le mot sira qui veut dire également tariqa. Tariqa, c'est la façon d'agir, le mode de vie. Tariqa, le mode de vie. Et on a sira qui veut dire hay'a. D'où le verset quand Allah Rabbul Izza dit à Moussa alayhi salam, سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. En parlant de du bâton. Quand Allah Rabbul Izza demande à Moussa alayhi salam de jeter le bâton qui devient un serpent, Allah demande à Moussa de le reprendre et promet سَنُعِيدُهَا. C'est quoi le signe dans سَنُعِيدُهَا? Un petit peu de base de langue arabe aussi, hein. C'est le signe du futur, le signe, la lettre signe qui commence, qui vient avant un verbe, c'est le futur. Sanu'iduha, on le fera, c'est écrit, pourquoi je me fatigue à chercher la traduction, nous allons le ramener à son état premier. Sirataha, le sira, ça veut dire également un état. Donc, Mubarak Fawri dit, voilà, à partir de ces trois sens étymologiques de sira et le sens que les savants ont donné, voilà en... Voilà, en résumé, la sira, c'est l'étude des comportements du prophète alayhi salat wa salam qui font de lui un modèle éternel à suivre. C'est-à-dire que la sira, je le reprends, ce n'est pas l'étude de dates uniquement ou de faits historiques uniquement ou d'une progression dans l'histoire et des événements. C'est justement des événements. Qui crée les événements? Qui crée les situations? Ça, c'est un des versets du taqdir. Allah vous crée, c'est-à-dire Allah nous crée, et également ce que nous accomplissons. C'est-à-dire nos actions sont créées par Allah, dans le sens sont prédestinées par Allah. Les situations que nous vivons, situations de bonheur, situations, je ne dis pas de malheur, mais d'épreuves, et ainsi de suite, ce sont des situations créées par Allah. C'est-à-dire que An-Nabi alayhi salatu wassalam, depuis qu'il est né, Allah Rabbul Izza, comme pour tout être humain, a déjà prédestiné pour lui des situations dans sa vie. Et les situations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre, ce seront les situations les plus extrêmes que personne avant lui, aucun être humain avant lui, n'aura vécu de situations aussi intenses et aussi compliquées, difficiles à vivre. Le prophète alayhi salatu wa sallam va commencer les premières années de sa vie avec le deuil. Il a perdu son père, il a perdu sa maman, il a perdu son grand-père, il a perdu son épouse, il a perdu son oncle. Ça, c'était, tout ça, c'était, subhanallah, dans les premières années de sa vie. Son épouse était un peu plus tard, bien sûr. C'est dans la période Makkiya, avant le voyage nocturne. Et là, il était déjà prophète. Et ça va continuer. Il va perdre sa fille, qui était mariée avec Hazrat Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Il va perdre un enfant avec la célèbre citation lorsqu'il dira à sa fille, à son épouse, que Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Sache que ce qu'Allah donne, ça vient de lui. Et quand Allah reprend, sache que ça lui appartient tout ça. Wa kullu, les termes ne reviennent pas. Bi ajali musamma. Et chaque âme qui vient de ce monde est pour une période spécifiée. Une période précise, et lui a demandé de as-sabr wa l'ihtisab, sois patiente et attends la rétribution près d'Allah. Il y a que là on a vu un aspect de sa vie. Le prophète va commencer sa vie, et durant toute sa vie, il va vivre beaucoup d'essais parmi ses proches, beaucoup de situations de deuil. Il y a que ce qu'Allah prédestine, nous voyons le meilleur des hommes, comment va-t-il agir, réagir, se comporter, rebondir, avancer malgré des situations terribles. C'est-à-dire, le prophète a perdu toutes les personnes qu'il aimait. Ascendant, il en a perdu des ascendants, mais également descendants. Des compagnons. Quand le prophète voit Al-Yasir se faire torturer et mourir devant ses yeux, un être humain ordinaire aurait dit, c'est à cause de moi. C'est parce qu'ils m'ont suivi qu'aujourd'hui, ils ont perdu la vie. Mais le prophète sallam nous montre que le croyant doit être capable, je ne veux pas rentrer dans les détails de la sirat, ce n'est pas le but, hein. Le croyant doit être capable de mettre de côté les appréhensions, les frustrations, vous savez, tout ce qui vous passe par la tête quand vous êtes emporté par le tourbillon des sentiments. Et là, on pense à plein de choses, canaliser tout ça et s'en remettre à Allah. Allah a décidé telle chose, de la décision d'Allah, il y a un khair, le dénouement, ou l'aqibatu lil muttaqin. C'est vrai, quand il n'y a que deux mots, c'est un peu plus compliqué, hein, pour les huffaz. Ou l'aqibatu lil muttaqin, en finalité, c'est dans les mains d'Allah. Et c'est là-haut, au jour de Qiyama, qu'on voit, justement, le dénouement, la rétribution, les récompenses. Plein de choses qui se passent dans ce monde que nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas, ça nous met la rage, ça nous rend triste, ça nous fait pleurer, ça nous met dans tous nos états. Il faut éviter de trop verbaliser des choses, de trop dire. Maintenant, si c'est avec un confident, ok, mais attention qu'il n'y ait pas de paroles de kufr, hein, de paroles qui montrent que nous ne sommes pas d'accord, nous n'acceptons pas le destin, et arriver à se projeter, mais avec force, vers le akhira, même dans les situations d'injustice que nous vivons au quotidien, se dire que Malik yawmiddin, Allahu Akbar. Ça, c'est rassurant, ça. Là, on passe au tafsir, là, c'est pas bon, là. Malik yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Pas casse la tête. Bonhomme là, tout fait au zulam. Impossible de l'arrêter. Impossible de changer. Je subis. J'ai essayé. Je fais des efforts. Ça ne marche pas. En finalité, c'est Allah qui réglera parce que c'est le maître du jour de la rétribution. Et en ce jour, l'imanil mulkulium pour Allah. Bah, c'est Allah qui dirige. C'est-à-dire que je reviens donc à un des objectifs de la sirah, c'est de voir toutes les situations que le prophète va vivre durant sa vie. Là, on a vu que le deuil, là, d'accord ? Et il y en aura d'autres, des situations de trahison, de maladie, de sorcellerie, de méchanceté, de calomnie, d'accord ? Et des situations qui distinguent le Ahd de Makki, la période mécoise, par beaucoup d'injustices, par beaucoup de, je reprends, beaucoup de méchanceté de la part des Quraysh, beaucoup de frustration, d'incompréhension de sa part. Comment j'étais Al-Amin il y a quelques jours, maintenant je suis le sorcier, maintenant je suis Al-Majnoun, A'udhu Billah, et ainsi de suite. Et Allah dit, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. C'est-à-dire, étudier la sirat d'une certaine façon, c'est, il faut en même temps voir l'historique des révélations. À mon humble avis, ça, c'est une approche vraiment âme, globale, et qui nous permet d'avoir vraiment une vision très éclairée de l'islam. Parce que très souvent, nous dissocions les choses. On apprend des versets, ce sont des versets. J'ai écouté un hadith, c'est un hadith. Mais imaginez que vous pouvez prendre le verset que vous avez appris, et le hadith que vous avez appris, et on est capable de vous dire que, vous savez, ça a été prononcé à tel instant, c'était dans telle période, et ainsi de suite. Comment est-ce que, subhanallah, c'est profitable. C'est, sans le moindre doute, extrêmement profitable, bifadlillahi ta'ala wa karami. C'est un des objectifs de la sirah. C'est pour ça que, en même temps, on va suivre le fil de Mubarak Fouri, mais en même temps, quand on a des tafsirs entrants, on essaiera au mieux, inshallah. Naam. Donc, l'étude des comportements du Prophète qui font de lui un modèle, voilà, un modèle éternel à suivre, voir comment il va traverser toutes ces situations de sa vie et à chaque fois être le modèle prophétique, le modèle qu'Allah Rabbul Izza attend de l'être humain. Cheikh explique également que la sirah représente l'aspect pratique des concepts du Coran et de la tradition prophétique. Le côté pratique du wahi, des wahiyain plutôt, du Coran et de la sunna. Le Coran, ce sont des ordres, des recommandations, des interdits, et ainsi de suite. Et pareil pour les hadiths. Maintenant, comment les appliquer au quotidien, comment les faire vivre dans des situations qui se présentent à nous, et des situations d'être humain. D'où l'importance du modèle, un homme, Nabi alayhi sallam, qui était prophète d'Allah, mais avant tout un homme, un père de famille, un époux, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'un être humain va vivre ces situations et va mettre en application les recommandations d'Allah Azza wa Jalla? Ça nous donne une vision beaucoup plus claire que d'avoir juste, on va dire, une liste de bons comportements et une liste d'interdits. Ça reste des thèses. Quand un musulman doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Par exemple, si on vous dit que voilà, si par exemple vous perdez un proche, imaginez qu'on fait une leçon comme ça. Si quelqu'un perd un proche, il faut dire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il ne faut surtout pas dire ça, ne pas faire ça, ainsi de suite. Des thèses. Mais me veux voir au moins mon frère. Demain, tu perds quelqu'un de proche. Est-ce que tu peux réciter ton sabak, ta leçon et mettre à Abaden? Par contre, quand tu vois la réaction du prophète alayhi salatu wassalam à la mort de Khadija radiallahu anha, ou lorsqu'il perd sa fille, ou lorsqu'il perd cet enfant, comme on a dit l'exemple tout à l'heure, c'est là que, et moi, pour moi, le plus parlant, c'est ce qu'il dit à son épouse, que fait preuve de patience. On s'en remet à Allah, inna ilahi wa inna ilahi raji'un, inna ilahi wa inna ilahi raji'un, nous le disons à chaque fois qu'il y a des décès. Des fois, nous l'avons déjà en copier-coller. Déjà, je vous assure, c'est préenregistré dans nos formules sur nos portables. Quelqu'un m'attaque direct. Il n'y a pas à terminer la phrase, un tel est décédé, qu'on a déjà écrit le verset. Ajib, il y a des surahs. C'est-à-dire qu'on ne tient même plus compte du sens. Mais quand le prophète Sassam dit à son épouse que nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons, sache que toute âme qui vient de ce monde, c'est pour une période précise. Quand Allah envoie, donne la vie, c'est que ça lui appartient. Et ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, tu resitues le verset dans son contexte. Ce n'est pas le contexte de révélation, hein, le verset avait déjà été révélé. Mais comment le prophète Sassam l'applique dans les situations de deuil? C'est tout l'intérêt de l'étude de la sirah, faire des liens, des connexions entre des acquis, parfois qu'on a, et l'application dans la vie de tous les jours. C'est ce que Cheikh dit, l'aspect pratique des concepts du Coran et de la sunna. Hada. Ce que le Cheikh dit également, deuxième point, on va s'arrêter avec ça, Inch'Allah, que la sirah, c'est également, il dit que le Coran était révélé pour guider les hommes, alors que la tradition prophétique a pour but de clarifier et expliciter le livre révélé. C'est ce que les savants disent, la sunna et la sirah, c'est bayan lil wahi, explication détaillée des versets du Coran. Ça nous permet de comprendre le but des révélations. Et c'est pour ça que Aïcha radiallahu anha, quand on lui posait des questions sur le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, elle disait kana khuluquhu al-Qur'an, le hadith qui est très connu, son mode de vie, son comportement, c'était le Coran. Donc c'est ce qu'on disait, il y a les thèses, il y a les recommandations et il y a la façon de le vivre. Et celui qui est vraiment le modèle, je pense, parce que si on doit regarder, analyser la vie de n'importe quel croyant, même un alim, un savant parmi nous, comme on l'a dit tout à l'heure, on voit des manquements. C'est-à-dire que personne ne va réincarner le modèle de l'islam. Mais c'est uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut, qui l'a fait, et l'étude de la sirah, ça nous donne la véritable image de l'islam. Il y a une citation très, très connue de, c'est pas un savant, c'est quelqu'un qui a dit, si j'avais connu les musulmans avant de connaître l'islam, je ne me serais jamais converti. C'est un scientifique ou un auteur qui a dit ça, quelqu'un qui s'est converti, dit que si j'avais connu les musulmans avant de connaître l'islam, je ne me serais jamais converti. Ça veut dire, si je devais me baser uniquement sur le mode de vie des musulmans, j'aurais jamais accepté la religion. Ça ne m'aurait pas intéressé. Mais le fait de connaître les textes, Je sais que c'est une religion qui est parfaite. Maintenant que les hommes ne le mettent pas en application, c'est autre chose. Et on termine avec cette citation. Il dit, je vais le lire, c'est facile. La sirat, ça représente... dit que la sirat touche toutes les époques, toutes les contrées et tous les individus. Qu'il n'y a pas de limite dans la sirat. C'est-à-dire, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, le croyant trouve toujours une source d'inspiration parce que cet homme a vécu des situations que nous vivons au quotidien. Et son comportement, c'est ce que nous devons importer dans notre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle prophétique. C'est-à-dire qu'un homme parfait qui a un comportement qui est inaccessible. Non, ce n'est pas un modèle qui est inaccessible. C'est un modèle qui est parfait, mais qui a notre portée, bien là, et c'est pour ça qu'Allah l'a envoyé, pour nous montrer quel est le mode de vie. Je continue, je complète. Elle représente une ligne de conduite parfaite, complète, et qui n'a de cesse de se revivifier dans toutes les situations que l'homme peut rencontrer. Ce dernier trouvera toujours, dans la sira, un modèle exemplaire, une pratique précise à adopter. Toutes les situations de la vie, le croyant trouve à travers la sira quel est le bon comportement, et cela permettra ainsi de sortir de son état de faiblesse pour devenir un homme fort. C'est quoi un homme fort? C'est un homme qui vit et qui agit comme Allah Rabbul Izzah attend de lui. C'est-à-dire, quand tu vois ce que le prophète a subi à Mecca, quand tu vois toutes les tentatives des Quraysh, des hypocrites, et ainsi de suite, et comment le prophète a réagi à Taïf, à Uhud, ben, ça te renforce et ça te permet de relativiser tes épreuves. Des fois, nous avons une épreuve et nous pensons que le monde gravite autour de ce problème. Mon problème, c'est tout. Ça remplit le monde entier. Mais en finalité, quand on voit ce que le prophète a subi, a vécu, le meilleur des hommes, on se rend compte que c'est pas grand-chose. Et on se rend compte qu'il y a eu peut-être des situations similaires. Et il nous a montré comment s'en sortir, vous savez, je ferme le livre, vous êtes sûr qu'on ne continue pas. Vous savez, j'ai horreur des discours très faciles. Les gens disent, bye, confiance en Allah, Allah il fait bye. Et inquiète pas, l'arrivée au ça, mais tawakkal à Allah, Allah yadaou, fais doigt, fais namaz, et ça va aller. Ah, mais quand toi tu es dans un trou, dans un fossé, quand tu es pris dans l'épreuve jusque là, le monsieur dit ça avec sa baguette sous le bras en traversant la rue, inquiète pas, sabar. Allah dans Jannah, ça Allah y crée situation. Franchement, hein, moi, je vais pas dire des choses méchantes, mais quand on ne s'est pas encouragé, va manger ton pain direct. Il n'y avait pas besoin de dire tout ça. Vas-y, traverse. Quand on ne s'est pas encouragé, vaut mieux ne pas le faire. D'accord? Et je disais donc que les discours trop faciles, les encouragements trop faciles. Par exemple, quand on parle de quelqu'un qui est dans une dépression, d'accord? Quelqu'un qui est dépressif, serait tellement bête de dire à la personne, non, un musulman n'a pas le droit de faire une dépression. Si on a confiance en Allah, on n'aurait pas été dans une dépression. Mais tu sais pas ce qu'il a vécu comme traumatisme. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je sais pas, mais harcèlement moral, problème au travail, décès d'un proche, situation que, ahwal. Tu es qui, toi, pour venir avec ta cape blanche direct de faire le son de morale? Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est juste pas possible. Et très souvent, c'est dans le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous voyons comment est-ce qu'un homme peut gérer ses émotions, se dépasser, accepter, donner un sens, faire le lien avec le divin et ensuite s'en remettre à Allah et avancer. Et le prophète n'a jamais été découragé. Et on disait en introduction, jamais un prophète n'a connu autant d'épreuves. En fait, ce serait un peu trop long, les épreuves de tous les prophètes sont condensées dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que les ambiyans ont connu comme difficulté, il y a une part de chaque épreuve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jamais une épreuve n'a ralenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même la mort de Khadija radiallahu anha ne l'a pas empêché de continuer la da'wa à Mecca. Et qui était associé à la mort de qui? D'Abu Talib, qui était son protecteur, son garant, et son épouse, qui finançait, qui lui permettait de faire sa da'wa et qui subvenait à ses besoins. Dars, hikmatun baligha, une leçon de la part d'Allah, ces deux piliers, en même temps, à quelques instants d'intervalle, il perd ces deux piliers, et il se retrouve seul, et il s'en remet à Allah. Il continue à avancer, Allah crée d'autres situations. C'est ce que nous recherchons à travers la sirah. Qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles. et qu'Allah purifie nos cœurs, nous permet de nous en de profiter et de nous imprégner de la du modèle prophétique Mantaoufiq Illa Billah. Donc je répète, si bon, c'est pas la semaine prochaine, dans deux semaines, si vous pouvez amener le livre, c'est bien, au moins on peut suivre ensemble, ça peut être profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin, alhamdulillah, jazakallahu khair.